Vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, c'est l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, animée ce soir par des militants d'attaque et par des journalistes du PIAF.
Émission en effet. Bonsoir. Eh bien, émission en effectif réduit ce soir, puisque nous ne sommes que deux, Alex et moi. Notre équipe internationale est dépêchée un peu partout dans le monde, en République tchèque, en Transnistrie, dans la France profonde et même à Saint-Denis. Alors, il n'y a pas les chroniques d'actualité de Jean-Marc, mais heureusement, il y a la chronique d'actualité d'Alex sur la réforme du lycée.
Alors actualité, voilà, c'est un bien grand mot, c'est quelque chose qui a déjà un peu commencé, qui va vraiment prendre forme à partir de l'année prochaine et dans 2 ans. On est dans un monde macronien et la réforme est en marche au lycée. Alors dans un langage orwellien, si on va sur le site du ministère de l'Éducation nationale, Blanquer nous promet un nouveau bac, un nouveau lycée. Un nouveau bac réussite, remusclé, approfondi, qui permettra de réussir dans le supérieur. Un bac égalité, grâce à un socle commun. Et un bac plus juste qui prendra en compte les motivations et les choix des lycéens. Bref, un bac liberté. Alors, ce nouveau lycée, c'est la fin des filières. Donc, sur le papier, a priori, c'est un progrès. C'est la fin de la dictature des S, ex-C. Pour les plus anciens. Et depuis les débuts de la démocratisation scolaire, on a eu de cesse de s'en prendre à l'élitisme qui consistait à faire d'une discipline le critère unique de la hiérarchisation des élèves et de leur possibilité de réussir dans le supérieur. Jusqu'aux années 50, c'était le latin. Il fallait avoir le latin pour pouvoir passer le bac, pour pouvoir faire des études supérieures. Aujourd'hui, ce sont les maths. Et on a évacué le latin dans les années 50-60. Est-ce qu'on est en train d'évacuer les maths? On va se poser la question et on va voir que oui, mais non. Donc, pour revenir à la réforme, les filières sont remplacées par des spécialités. En seconde, les élèves sont sommés de choisir parmi 12 spécialités, 3 qui suivront en première et puis après, seulement 2 en terminale. Certaines de ces spécialités ont des noms exotiques, comme LLCE, langue, littérature et culture étrangère. Alors, en traduction, ça veut dire anglais renforcé. LLCA, langue, littérature et culture de l'Antiquité. Traduction latin et grec. Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. HGGSP. En gros, de l'histoire géo. D'autres sont plus triviales et communes. SES, physique, chimie, par exemple, et mathématiques. Et donc oui, ça c'est la première grande surprise de cette réforme. Ce bac il est égalitaire, avec son tronc commun, censé mettre chacun au même niveau. Il n'y aura pas de maths dans le tronc commun, ça sera une spécialité. Et évidemment, ça inquiète, ça fait réagir, à tel point d'ailleurs que Blanquer et monsieur mathématique du gouvernement, c'est-à-dire Cédric Villani, se sont fendus d'une vidéo involontairement drôle pour rassurer tout le monde. Les mathématiques doivent être choisies pour être bien apprises. Et pour ceux qui s'inquiètent pour l'orientation, certains élèves pourront choisir une option mathématique complémentaire en terminale, même s'ils n'ont pas choisi la spécialité. Alors la réalité, ce qu'il y a derrière ce choix étrange, c'est beaucoup plus prosaïque. On a du mal à recruter des profs de maths. Ces profs sont de plus en plus chahutés par des élèves qui sont de moins en moins motivés. Et du coup, on a trouvé la solution. Qu'à cela ne tienne, il suffit d'enlever les maths du tronc commun, en faire une spécialité, faire un programme un peu costaud. Et du coup, il y aura moins d'élèves. Le tour est joué. On fait baisser la demande pour ajuster l'offre à la demande. Voilà. Dans le genre prosaïque aussi, toujours dans cette réforme, c'est le choc de simplification du nouveau bac. L'ancien bac, il était coûteux, il fallait faire passer les mêmes sujets à tout le monde en même temps. Alors, donc c'était compliqué à organiser. Du coup, on réduit les épreuves terminales et on fait du contrôle continu, et comme ça, on réduit les coûts. À l'arrivée, on aura des épreuves trimestrielles ou semestrielles en première et terminale qui compteront pour 40% de la note, et des épreuves finales en français en première et sur les 2 spécialités, et un grand oral qui compteront donc pour 60% de la note. En mettant toutes ces considérations prosaïques de côté, cette réforme a-t-elle des chances d'atteindre ses objectifs affichés, plus de liberté et d'égalité entre les élèves? A priori non, car cette réforme oublie cyniquement la diversité des milieux et des situations à laquelle elle s'adresse. Alors on peut prendre un exemple, de manière très caricaturale, illustrer les effets de la réforme, la perception qu'auront de la réforme deux personnages parfaitement imaginaires qui sont Augustine de Versailles et Kevin de Garges, les Gonesses. Augustine, surtout ses parents, est absolument ravie de cette réforme. Elle est très bonne en maths, elle souhaiterait aller en prépa scientifique ou à la limite en prépa économique. Du coup, pour se laisser la liberté, c'est très bien, elle choisira maths, physique, chimie et SES. Sa mère est un peu triste parce que, prof de lettres classiques, elle aurait souhaité qu'elle prenne LLCA, mais son père a mis le haut là. Mathématicien spécialisé dans la finance, il imagine HEC comme un débouché parfaitement naturel pour les talents indéniables de sa fille. En terminale, Augustine a renoncé à la physique qui l'ennuie. Le jour du grand oral, elle a bluffé le jury en présentant différentes approches mathématiques permettant de modéliser l'évolution des cours obligataires. Pour Augustine, c'est très forte. Cette réforme apporte effectivement plus de liberté. Elle permet de choisir un parcours qui s'adapte au mieux à ses ambitions ou, si on est un petit peu cynique, à celles de ses parents. Alors lui, Kevin, par contre, il est élève à Garges-lès-Gonesse. Ses parents voudraient qu'il prenne la spécialité maths. Ses professeurs pensent que ce serait une erreur avec 5 de moyenne en maths. Finalement, son choix s'est porté sur la géopolitique parce qu'il aime bien la prof. Et LLCE, car comme dit sa mère, dans la vie, l'anglais, c'est toujours utile. Et les SVT, parce que c'est une des rares matières où il a des notes correctes. On lui a fait remarquer que c'était pas très cohérent et que son projet professionnel ne semblait pas tout à fait abouti. Mais qu'à cela ne tienne, il a continué. En première, Kevin s'est rendu compte que la géopolitique, c'était pas passionnant. Que la SVT, ça servait à rien sans maths. Et que LLCE, ça consistait à lire des livres en anglais de 200 pages, qui n'est pas sa passion. Il a finalement eu le bac grâce à une note honorable au grand oral et un contrôle continu montrant une certaine constance dans l'effort. Il a multiplié les demandes sur Parcoursup et, très angoissé, il a fini par apprendre qu'il était pris dans un BTS tourisme et s'estime, sans doute à juste titre, chanceux. Lui, comme ses parents, pense que cette réforme n'a pas changé grand-chose au final, mais que ce nouveau lycée, ça a quand même été vachement angoissant. Alors au-delà de la caricature, cette réforme va accentuer les inégalités entre élèves et instaurer une concurrence entre établissements et entre disciplines. D'un côté, des élèves comme Kevin, plutôt comme Augustine, qui sont entourés, conseillés, coachés par des parents bien informés, qui ont des bases solides et des perspectives. De l'autre, des élèves qui ont des lacunes et qui sont dans le flou quant à leur avenir. Leurs parents sont généralement attentionnés, soit bienveillants, soit exigeants, mais en difficulté pour les conseiller, pour les aider à se rattraper quand ils commencent à couler dans une matière. À tous, on demande déjà, ça a commencé, en classe de seconde, de faire un choix qui pèsera lourdement sur l'orientation en fonction de leurs préférences. C'est dur, et c'est d'autant plus dur que le niveau de l'élève est pas très bon, et qu'il est mal informé. Alors le ministère, qui a réponse à tout, a prévu des heures d'orientation confiées aux professeurs principaux des classes de seconde, pour leur plus grande joie d'ailleurs, et dans le même temps réduit le nombre de conseillers d'orientation renommés PsyEN pour l'occasion. Donc on voit bien un petit peu la logique qu'il y a derrière. On va réserver les vrais spécialistes des questions d'orientation aux gens qui ont des problèmes particuliers. Les maths sont l'exemple type de ce choix cornélien qui se pose aux élèves de seconde. Peu d'élèves en seconde aiment vraiment les maths, mais ne pas prendre les maths, c'est renoncer à un très grand nombre de débouchés possibles. Alors dans le cadre de la spécialité, les maths vont être difficiles. Le programme de première en spécialité maths, tel qu'on a pu le voir, est léger et plus exigeant que celui de S actuellement. On voit très bien se redessiner une élite autour de cette nouvelle spécialité. Et on imagine très bien un élève comme Kevin, face à un programme de maths un peu costaud, renoncer assez vite. De la même manière, les établissements sont mis en concurrence de manière plus intense. Le contrôle continu qui représentera 40% de la note finale au bac sera inévitablement un moyen pour les établissements les plus en difficulté de remonter les notes afin d'optimiser leur taux de réussite, avec un effet à terme qui va arriver très vite, une dévaluation du diplôme quand il est obtenu dans un lycée réputé mauvais. Et on voit déjà actuellement sur Parcoursup que le lycée d'origine est déjà un critère de sélection des élèves. Les disciplines sont aussi mises en concurrence, et je peux en témoigner personnellement. On sonde les élèves, on essaye d'anticiper le nombre d'heures par matière pour savoir qui partira, puisque s'il y a trop d'heures qui disparaissent, les dernières arrivées vont être les premières à repartir. Rien d'aberrant là-dedans, le nouveau lycée, derrière l'apparente innovation pédagogique, est surtout un moyen de réaliser un arbitrage budgétaire à la baisse. Le nombre d'heures par élève va baisser. Et astuce suprême dans cet arbitrage budgétaire, ce n'est pas le ministère qui va trancher, mais les élèves eux-mêmes qui vont décider quelles matières vont être les plus importantes. Bref, et c'est la conclusion, Macron et Blanquer sont en train de faire advenir le libéralisme au lycée et nous promettent des lendemains qui chantent.
Merci Alex. Et vous l'avez compris, comme Alexandre a commencé à le faire, nous allons parler ce soir de justice sociale. Ce qu'Alex a oublié de dire, c'est que le papa de Kevin a le mauvais goût d'aller à son travail depuis que son emploi a été délocalisé à 40 km avec une vieille voiture diesel, alors que la maman d'Augustine, elle, a le bon goût de rouler en trottinette électrique. Et donc nous allons aussi parler de justice écologique et même plus précisément d'urgence sociale et d'urgence écologique. Alors pour parler de, pour revenir au premier thème, justice sociale, nous allons écouter Marie-Antoinette Joubert de The Global Alliance for Tax Justice, qui était interviewée au Forum social mondial de 2016 et qui va nous parler de la justice fiscale, des impôts plus justes pour tous.
Il y a 10 ans, quand on nous parlait de justice fiscale ou tout simplement d'impôts, tout le monde s'asseyait ou sortait. Aujourd'hui, tout le monde se lève. Pour une bonne raison, c'est que le débat il a un petit peu évolué sur à quoi sert l'impôt. Et les gens sont un peu moins frileux pour en parler et se rendent aussi compte que c'est intéressant de travailler sur la justice fiscale parce que c'est dans nos pays qu'elle est décidée, c'est dans nos pays que les lois fiscales internationales sont décidées parce que c'est nos pays riches qui font pression. Une façon pour un citoyen français, par exemple, ou qu'il soit dans le monde, de s'engager pour la justice fiscale ou de défendre la justice fiscale, ça peut être à travers son ONG ou son syndicat, s'il fait partie d'une organisation comme ça ou d'une association. L'un des sujets par lesquels on peut commencer à s'intéresser à la justice fiscale et sur lequel on travaille en ce moment, c'est la justice fiscale des entreprises. L'idée, c'est que les entreprises payent leur juste part d'impôts, comme on le fait nous et comme le font la plupart des PME en France. On a une campagne qui est déclinée sur tous les continents et qui s'appelle Multinationals Pay Your Share, multinationales payez votre part d'impôt, paguen lo justo en espagnol, qui fonctionne assez bien parce que c'est vrai que c'est un système qui est très injuste, le système d'évasion fiscale ou d'optimisation fiscale des entreprises et qui touche tout le monde parce que finalement nous, on a tous besoin des services publics, mais les entreprises multinationales, elles en ont autant besoin que nous, voire plus. Elles ont besoin de personnes très éduquées, elles ont besoin de routes qui fonctionnent, elles ont besoin de postes qui fonctionnent, elles ont besoin d'un système de santé qui leur permet d'avoir des employés en bonne santé et tout ça, c'est les services publics qui le permettent et les services publics sont payés par les impôts.
Et ça tombe bien puisque nous avons un gouvernement qui est résolument engagé dans la justice fiscale. Et en particulier, Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, a présenté mercredi 6 mars en Conseil des ministres un projet de loi de taxation des entreprises du numérique, notamment les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, qui va permettre de faire payer des impôts à ces entreprises. Mais est-ce vraiment ça exactement ? Raphaël Prado, porte-parole d'ATTAC, décrypte ce projet.
Mercredi 6 mars, le Conseil des ministres va examiner le projet de taxe GAFA. Aujourd'hui, c'est vrai que les GAFA et plus généralement les géants du numérique sont particulièrement peu imposés en France. Ils échappent en grande partie à l'impôt parce qu'ils déclarent leurs bénéfices dans des paradis fiscaux comme l'Irlande ou comme Jersey. Cette situation est inacceptable. Ce sont les plus grandes entreprises du monde aujourd'hui et pourtant, elles ne contribuent pas à l'impôt. Cela alimente le sentiment d'injustice fiscale. Depuis des années, ATTAC a mené de nombreuses actions contre l'évasion fiscale des GAFA et pour réclamer que des mesures soient prises. Donc nous nous félicitons qu'enfin ce sujet soit sur la table. Mais à y regarder de plus près, la communication du gouvernement apparaît un petit peu exagérée. Bruno Le Maire se félicite d'une mesure de justice fiscale. En Marche prétend que les GAFA vont payer les impôts comme tout le monde.
Dis Siri, à partir du 1er janvier 2019, qu'est-ce qui va payer sa juste part d'impôt ?
Bon, faire payer aux multinationales leur juste part d'impôt, c'est exactement ce qu'Attac demande. Le problème, c'est que le projet du gouvernement propose simplement d'instaurer une taxe de 3% sur ce que Bruno Le Maire appelle le chiffre d'affaires numérique, c'est-à-dire une partie des activités de ces géants. Cette taxe devrait rapporter seulement 500 millions d'euros, c'est quand même assez dérisoire quand on connaît le montant astronomique des profits réalisés par les GAFA. Donc la mesure ne va pas résoudre l'injustice fiscale puisque les GAFA vont continuer à payer beaucoup moins d'impôts que par exemple une PME. Pour Attac, c'est une mesure symbolique destinée à donner des gages, à montrer avant les élections européennes qu'on prend des mesures de justice fiscale, qu'on se soucie de justice fiscale. Mais le problème, c'est que dans le même temps, le gouvernement ne reviendra pas sur les cadeaux fiscaux faits aux plus riches, comme l'ISF ou comme la flat tax. Et il faut rappeler quand même que cette taxe GAFA va rapporter 8 fois moins que ce que rapportait l'ISF. Donc plutôt qu'une taxe symbolique sur une partie du chiffre d'affaires des GAFA, Attac propose plutôt une taxation unitaire des multinationales, c'est-à-dire neutraliser durablement les transferts artificiels de bénéfices vers les paradis fiscaux et faire en sorte que les GAFA payent des impôts en fonction de leur activité réelle dans chaque pays. Malheureusement, on en est encore loin.
Alors avec un gouvernement aussi engagé pour la justice fiscale, je crois que les cadors du numérique auront toujours une place au soleil. Les cadors, c'est ce que nous chante Alain Souchon. Les cadors, on critique, mais c'est quand même eux qui font tourner l'économie, c'est eux qui vous donnent un emploi, c'est eux qui vous donnent un salaire, leur richesse ruisselle sur vous. Alors si on les taxe trop, ils risquent de partir, non ?
Ah bah c'est... ouais.
Hein, et Alex, notre économiste.
Les Bahamas, c'est pas fait pour rien. Hein.
Et c'est le raisonnement que tient à peu près notre président Macron. Et pour libérer l'économie, il a donc... pour une partie, supprimer l'impôt sur les fortunes et ne compte sûrement pas le rétablir.
Bonjour, je m'appelle Léo Char, je suis enseignant chercheur en économie, membre du collectif des économistes atterrés et d'Attac, et aujourd'hui on va parler ensemble de l'ISF.
Il faut pas raconter des cracks, hein. C'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a un an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera, ça c'est de la pipe.
Je vais vous montrer en trois points pourquoi on peut dire que c'est Emmanuel Macron qui raconte des cracks sur l'ISF. Premièrement, le gouvernement nous dit que la suppression de l'ISF permet de relancer l'investissement productif en France. Alors, le plus simple pour investir, c'est d'acheter des actions en bourse. Or, il se trouve que la contribution de la bourse à l'investissement productif en France représente 2,55%. Si on veut même aller plus loin, si on prend un investisseur lambda, vous avez 99% de chances pour qu'il choisisse un placement financier spéculatif plutôt qu'un placement financier qui contribue réellement à l'investissement. Deuxièmement, on nous dit que l'ISF fait fuir les riches du pays. Si on prend les chiffres officiels, ce qu'on a considéré comme une hémorragie représente 484 personnes en 2014, soit 0,15% du total des personnes payant l'ISF. Donc d'un côté, on a une perte fiscale estimée à 170 millions d'euros par an, et de l'autre, l'ISF qui rapporte à l'État 5 milliards d'euros. Ce qu'on peut ajouter, c'est que la présence de l'ISF n'a pas empêché les riches de devenir de plus en plus riches, puisqu'entre 2016 et 2017, on compte 192 millionnaires de plus en France. Troisième point, la transformation de l'ISF en IFI a fait perdre à l'État 3,2 milliards d'euros par an. Et 3,2 milliards d'euros par an, ça représente l'équivalent d'une prime de 130 euros par mois que l'État pourrait verser à plus de 2 millions de salariés du privé payés au SMIC. L'ISF est donc un symbole qui nous coûte quand même 3,2 milliards d'euros par an, et c'est un symbole surtout pour les Gilets jaunes qui demandent son rétablissement. Nous, ce qu'on propose, c'est une politique fiscale plus juste et plus redistributive, à l'opposé de ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui.
Eh oui. Et puis pour les pauvres, il y a les livrets de développement durable et solidaire. Alex, as-tu un livret de développement durable et solidaire ?
Bah oui, moi je suis écologiste, solidaire, donc oui, j'ai mon livret de développement durable.
Comme c'est mignon. Alors en fait, il n'y a rien qui garantit que l'argent que tu déposes sur ton livret d'épargne ou de développement durable et solidaire finance des projets durables et solidaires. Pourquoi ? La Caisse des dépôts et consignations qui gère ces livrets centralise 60% des 106 milliards d'euros que représentent ces livrets. Et les banques ont la possibilité de conserver jusqu'à 40% de l'épargne qu'elles collectent. En ce qui concerne la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, elle a annoncé le 29 novembre qu'elle se désinvestirait du charbon à partir de 2019. C'est déjà ça. Mais elle continue à investir dans d'autres projets tout aussi climaticides. Et dans les 40% qui restent aux banques, 80% de l'argent est fléché vers le financement des PME, qu'elles aient des activités soutenables ou pas. 10% est orienté vers des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. Et donc, il reste 10% dont les banques peuvent faire à peu près ce qu'elles veulent, investir dans la drogue, le charbon, etc. Donc, il n'y a que 10% de la somme gardée par la banque qui mérite réellement l'appellation durable et solidaire. C'est pour ça que, à l'automne dernier, ATTAC et l'organisation 350.org ont lancé la campagne Pas avec notre argent, avec des interpellations des banques sous des formes plus ou moins musclées pour obtenir un livret de développement durable et solidaire qui soit 100% durable et solidaire. Cette campagne a été précédée par d'autres dans lesquelles des ONG, dont ATTAC, pointaient les investissements massifs des banques dans les énergies fossiles. Et on a même eu quelques victoires, comme en 2015, le désengagement des trois plus grandes banques françaises, BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole, du projet AlphaCol, qui était un projet de mine de charbon géante en Australie.
Ça fait rêver, AlphaCol.
Mais tout ça ne suffit pas. Puisqu'aujourd'hui, sur 10 euros accordés par les banques au secteur de l'énergie, 7 sont investis dans les énergies fossiles, qui sont responsables, comme on sait, de la destruction du climat. Les émissions de CO2 issues de la combustion des énergies fossiles, qui devraient diminuer d'après les accords divers et variés sur le climat, eh bien, sont reparties à la hausse à l'échelle mondiale et même en France. Malgré la COP21, malgré les engagements de Macron, président de la Terre,
président de la Terre.
Les entreprises du secteur fossile exploitent actuellement ou s'apprêtent à exploiter des réserves de charbon, de gaz et de pétrole qui représentent 5 fois ce que nous pouvons émettre de CO2 si nous voulons maintenir le réchauffement sous la barre des 2 degrés. Et pendant que le climat se dégrade, pendant que les militants militent et que les jeunes prennent la main, puisque les vieux ne font rien, les politiques, eux, ils en restent aux vœux pieux. Pourtant, hier soir, ils pouvaient agir. La députée PCF Elsa Fossillon a porté une proposition de loi avec des mesures concrètes pour que notre argent ne finance plus la catastrophe climatique. Un projet avec 4 articles. Article 1er, elle souhaite que l'établissement distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire fournisse une fois par trimestre au ministre chargé de l'économie et au Parlement une information détaillée sur l'utilisation de l'argent. Article 2, que les banques fassent un bilan annuel public et détaillé sur leur financement accordé aux entreprises qui ont des activités dans le secteur de l'énergie fossile. Article 3, que l'épargne gérée par la Caisse des dépôts et consignations ne puisse pas être utilisée pour financer des activités d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures et du charbon. Et l'article 4 imposait aux investisseurs institutionnels publics, c'est-à-dire les caisses de retraite et de prévoyance, une obligation de transparence sur la gestion de leur portefeuille d'actifs, de manière à identifier les éventuels investissements dans l'exploration ou l'exploitation des hydrocarbures et du charbon. Bref, rien de très méchant, c'était pas le programme commun des Khmers Rouges en 75. Les députés étaient super intéressés. Ce ne sont pas moins de 33 députés qui se sont massés à l'Assemblée nationale pour participer à ce vote. Et finalement, les députés macronistes ont vidé la proposition de loi de tous ces articles. Ils ont rejeté un par un les articles. Donc ils ont voté une loi vide, et évidemment sans les voix des signataires de la proposition initiale. Mais ils ont quand même voté la loi parce que bon, c'est quand même des gens préoccupés par le climat. Alors comme le souligne Tchatch Etcheverry, j'espère que je prononce bien, qui est le cofondateur d'Alternativa, il disait ça dans Politis la semaine dernière, tout le monde est prêt pour le climat, Tout le monde est pour le climat, tout le monde est contre son dérèglement ou son emballement, mais est-ce que tout le monde est vraiment prêt à faire tout ce qui est nécessaire concrètement pour le climat? Bien, le camp macroniste a clairement répondu non. Donc, rendez-vous avec les jeunes vendredi 15 mars et avec tout le monde samedi 16 mars. Et puis surtout, attaquons-nous sérieusement aux causes du dérèglement climatique.
Mais demain, grâce à toutes nos actions et grâce à la bonne volonté macroniste, ça ira mieux, comme le chante Fugain.
Pas plus que la grande ours, pas plus que toi et moi.
Et on se retrouve dans l'émission Mode d'emploi avec Gaël à la présentation.
Et nous avons enfin réussi à joindre notre envoyé spécial à Saint-Denis, Pierre, qui va nous parler non pas des cadors, mais des micro-entrepreneurs.
Oui, les micro-entrepreneurs, ce n'est pas forcément des cadors, mais c'est un statut qui a été créé en 2008 à partir d'une volonté de Nicolas Sarkozy d'avoir face aux entreprises un nouveau type d'emploi, un nouveau type plutôt de créateur d'emploi. C'est le statut qui a eu lieu, a amené des reportages enthousiasmes à travers la presse et qui est encore aujourd'hui en vogue 10 ans plus tard. Ce statut, on peut le faire remonter à une volonté de février 1848. Un certain prédécesseur de Nicolas Sarkozy, appelé alors Adolphe Thiers de sinistre mémoire, qui, montant au front contre les périls de l'association ouvrière et du droit du travail, s'écriait « Je désire que l'ouvrier, qui n'a que ses bras, puisse aussi devenir capitaliste à son tour et s'élever à la fortune. » Je ne crois pas qu'il le puisse en se mettant à la place de son maître, en s'associant avec ses camarades pour former avec eux une entreprise collective qui manquera de capital, de direction, de tout ce qui fait réussir. Mais voici, pour l'ouvrier de mérite, un moyen certain d'arriver au résultat proposé, de devenir entrepreneur sans capital et sans l'inconvénient attaché à une entreprise collective. Ce moyen est celui du travail à la tâche que les nouveaux amis des ouvriers ont aboli. Alors, ça fait un petit peu peur en 1848, mais est-ce que ça nous fait peur en 2008 ? On peut même dire que, 10 ans plus tard, au cœur de l'été 2007, il y a eu une grève des auto-entrepreneurs. C'était les livreurs de pizza, entre autres de chez Deliveroo, qui, accoudés à leur vélo, ont tenté de faire une petite manifestation. Or, juridiquement parlant, comme ils sont travailleurs indépendants et non salariés, ben, ils n'étaient pas en grève. C'était effectivement à eux de subir les conséquences de l'arrêt de leur travail. Alors, c'est quoi ce statut de micro-entrepreneur qui est entré en vigueur le 1er janvier 2009? On peut devenir micro-entrepreneur en 3 clics sur Internet, en s'ouvrant à toute autre activité, ou presque. Pour cela, c'est faire fructifier ses talents, c'est être capable de mettre en place, pourquoi pas, un cumul d'activités professionnelles indépendantes. On peut même le cumuler pour un chômeur avec ses allocations, compléter pour un salarié ses revenus par une autre activité. Alors, c'est une protection sociale aussi, qu'il ne faut pas nier, mais elles sont aux mailles tellement lâches que les accidents du travail ou les maladies professionnelles ne sont tout simplement pas prises en charge, ce qui n'empêche pas quand même, évidemment, de payer quelques taxes. Alors, il y a quelques allègements de TVA ou de cotisations sociales, mais c'est plus au détriment du travailleur qu'autre chose. Alors là, on parle de Franco-France, mais dans les années 2000, on a vu se mettre en place ce statut dans toute l'Europe. En 2003, c'était le statut Inch AG en Allemagne, toujours fait par ce fameux Peter Hartz, ancien directeur du personnel de Volkswagen. Il crée là la Moi Société Anonyme en Allemagne, on a la même chose en Italie, ou même en Espagne dernièrement. Ces lois s'accompagnent dans toute l'Europe de statistiques, et on peut savoir si ce statut de micro-entrepreneur permet d'accéder à de meilleurs revenus. Et c'est vrai que la micro-entreprise réalise un chiffre d'affaires global de 8,75 milliards d'euros en France. C'est pas négligeable par rapport aux 2 millions 2,2 d'entreprises de moins de 10 salariés qui font 760 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, c'est dérisoire par rapport à la création de richesses nationales. Alors, regardons le chiffre qu'on attend, c'est-à-dire est-ce qu'en moyenne, un travailleur auto-entrepreneur reçoit de l'argent ? Ben, il reçoit en moyenne 410 euros en 2013. Voilà, ça termine un petit peu l'analyse financière. Alors en plus, ce chiffre est largement monté par 10% d'entre eux qui montent jusqu'à 1100 euros par mois. Hein, c'est-à-dire très faiblement non plus par rapport à un véritable revenu. Est-ce qu'on peut citer quelques exemples ? On peut citer des cas où, par exemple, quelqu'un diplômé d'une école d'architecture passe 3 ans en tant que micro-entrepreneur travaillant dans un cabinet d'urbanisme avant d'être embauché. En fait, on peut remarquer que le régime d'entrepreneur se substitue tout simplement au celui d'indépendant, au celui de sous-traitant dans pas mal de cas d'entreprise. Alors, est-ce qu'on peut être totalement désespéré ? Bah, il y a quand même quelques luttes possibles. Entre autres, l'idée que les travailleurs peuvent, même s'ils sont micro-entrepreneurs, se rassembler. En Royaume-Uni, Uber a été ainsi condamné en novembre 2017 à verser à ses chauffeurs un salaire minimum et à leur octroyer des congés payés. Mais il s'agissait de tenter de ne pas requalifier tout ça en CDI. Le projet de loi El Khomri en 2016 s'était d'ailleurs appuyé sur ça pour ne pas du tout faire évoluer le dossier vers un quasi-salariat. Mais finalement, aucune disposition n'a été prise en compte. Alors, vive la lutte sociale, malgré l'éparpillement des micro-entreprises, des micro-entrepreneurs, par exemple, en Belgique, ont réussi à faire des coopératives d'activité pour la livraison en vélo. Il y a aussi Coupanam en France, où il y a 850 membres qui essayent de remettre leur activité de manière autonome, mais en ayant des filets de protection. Et même depuis 2016, le collectif CoupeCycle, qui met à disposition des coopératives tout un outil algorithmique pour leur permettre de travailler de concert. Alors espérons que tous ces débouchés un peu plus intelligents feront que les micro-entrepreneurs ne seront pas les exploités de demain.
Pierre, tu es toujours là ?
Alors, je ne sais pas si je suis encore à l'antenne.
Oui, tu avais terminé ? Allô ? Oui, Pierre, on t'entend ?
Alors, on m'entend, mais j'ai terminé ma chronique.
Ah, d'accord, excuse-moi. Eh bien, merci pour cette chronique. Alors, dans cette émission, on a parlé de justice sociale, de justice écologique, d'urgence sociale, d'urgence écologique. Alors, qu'est-ce qui fait le lien entre tout ça ? Christophe Aguiton, de l'association ATTAC, va nous parler de la convergence des luttes sociales et écologiques.
Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30.
Bonjour Christophe Aguiton.
Bonjour et merci de m'avoir invité.
Merci de nous recevoir, enfin d'avoir accepté notre invitation. Surtout, vous êtes sociologue, militant syndical associatif aussi. Vous connaissez assez bien les mouvements sociaux. Le gouvernement, plusieurs responsables politiques appellent les Français, les gilets jaunes, à ne pas aller manifester demain. C'est quoi ? Ils ont peur du peuple, selon vous ?
Ah, je pense qu'il y a panique au sommet de l'État. Hein. On se rappelle tous de cette fameuse phrase de Lénine qui disait « Les révolutions arrivent quand ceux d'en bas n'en veulent plus de la situation et ceux d'en haut ne peuvent plus ». Alors on est un peu dans ce cas-là. Alors c'est pas une révolution, hein, je donne cette analogie-là, parce que on voit bien à quel point ceux d'en bas n'en veulent plus et ceux d'en haut sont paralysés. Mais c'est vraiment ça qu'indique cette dernière séquence. Hein. Moi, je suis absolument frappé par le fait que ce qu'a annoncé Édouard Philippe en milieu de semaine, c'est trop tard et trop peu. Hein. Donc ça ne peut évidemment pas satisfaire les revendications qui maintenant sont passées sur les terrains les meilleurs. Hein. Écoutez ce qu'ils disent tous, c'est le SMIC, c'est les retraites, hein, en finir avec la limite à 0,3% d'augmentation, et c'est l'ISF comme symbole des inégalités et de l'injustice. Et le fait qu'aujourd'hui le gouvernement tape sur l'ultra-violence, les appels au meurtre, ne venez pas manifester, il faut une union sacrée contre ça.
Il y a une exagération, il surjoue caractère...
Je ne sais pas comment ça se passera demain, samedi sera probablement une journée difficile, hein, bon, mais ce qui est certain, c'est que la façon dont communique, disons, l'équipe gouvernementale, hein, au sens l'Élysée, le gouvernement et les députés de la République en marche, c'est strictement ça. C'est une espèce d'appel à l'union sacrée et de peur du loup.
Alors vous appelez justement demain à manifester pacifiquement. Vous avez publié une tribune aujourd'hui dans Libération, Attaque et Copernic. Vous y croyez? C'est possible? Quand le Premier ministre annonce qu'il y aura 12 blindés à Paris, un dispositif renforcé de sécurité, c'est possible une manifestation pacifique demain?
Bon, déjà deux choses à dire. La première, c'est que cette tribune, le nombre de signataires nous a beaucoup surpris, hein, parce que c'est une tribune qui appelle en gros à des convergences entre mouvements pour ce qu'on appelle la justice climatique, c'est-à-dire en gros toutes les marches contre le réchauffement climatique et pour le climat, et puis tous ceux qui se battent sur la justice sociale, dont évidemment font partie les Gilets jaunes. Ce qui n'est pas une convergence facile, hein. Bon, mais c'était vraiment le point d'entrée de cet appel, hein, bon, qu'on va relayer, je pense, très largement, mais elle a été signée beaucoup, bien au-delà de ce que nous pensions. Beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'artistes ou d'écrivains comme Chamoiseau, mais également de nombreux syndicalistes, dont Philippe Martinez, hein, qui signe une tribune qui, pour moi, n'est pas exactement sur la même tonalité que l'appel intersyndical, par exemple, qui est sorti de la réunion de jeudi. Bon, et puis aussi des écologistes, hein, Bloom, hein, l'ONG spécialisée sur la défense des océans, qui n'est pas connue pour être des hyper radicaux. Cyril Dion, hein, qui a fait le film Demain et qui est lui aussi quelqu'un plutôt, disons, d'écologiste modéré. Tous ont signé cette pétition, ce qui montre qu'il y a une vraie compréhension que la justice sociale et la justice climatique sont inséparables d'une certaine façon. Donc maintenant, comment on peut faire dans la rue? Ça, c'est votre deuxième question. Et je voudrais d'abord dire que tout ne se limite pas à Paris. Ce qui nous frappe quand on fait le tour des villes de province, c'est que le nombre d'endroits où il y a des convergences à deux, voire à trois acteurs. Ce que je veux dire, c'est que samedi, il y a deux appels à manifester ou à bloquer, les Gilets jaunes, bien évidemment, et partout des marches sur le climat, hein, qui sont organisées depuis le 8 septembre. Enfin, vous connaissez cette dynamique-là. Bon. Mais aussi maintenant, on a des appels CGT ou intersyndicaux et on a des villes où tout ça converge. À Montpellier, c'est une marche unique. À Rouen, les Gilets jaunes ont appelé à la marche verte pour que Gilets jaunes et Gilets verts se retrouvent. Hein. On a comme ça beaucoup de villes, Toulouse également, où l'UDCGT appelle à rejoindre les manifestations. Donc on a en province beaucoup, beaucoup de convergences, pas partout, mais dans beaucoup d'endroits. Et là, ça se passera évidemment plus facilement. Le problème de Paris, c'est que c'est très grand, c'est le lieu du pouvoir. Et puis c'est aussi un lieu où les Gilets jaunes n'existent pas en tant que tels. Hein. Il n'y a pas de Gilets jaunes parisiens. Hein. On sait tous que Paris, moins d'un tiers de la population roule en voiture. Donc on n'est pas du tout dans la situation des petites villes dans lesquelles le mouvement des Gilets jaunes est particulièrement ancré. Donc on a ça. Et donc, on a plus de difficultés à organiser une convergence. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup de manifestants avec les Gilets jaunes, je pense de façon pacifique, en tout cas, je l'espère, et puis aussi beaucoup à la marche pour le climat qui aura lieu à 14h à partir de Nation.
Une difficulté aussi parce que vous manquez sans doute aussi d'interlocuteurs, c'est aussi un des sujets des Gilets jaunes. Il y a une pluralité d'opinions qui s'expriment, une pluralité de personnes qui s'expriment. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent? Vous connaissez bien les mouvements sociaux. Il faut une structuration ou est-ce que c'est pas nécessaire pour aboutir à un moment donné à des discussions, peut-être à des négociations aussi?
C'est pas indispensable. Ce qu'on voit dans la structure des Gilets jaunes, c'est quelque chose qu'on voit maintenant depuis longtemps. Nuit debout avait fonctionné un peu de la même façon. Et les marches pour le climat également, hein, on y reviendra tout à l'heure. Mais ce qui est très frappant, c'est que c'est aussi un mélange de vidéos YouTube, de réseaux du type Discord ou Facebook ou d'autres qui permettent de coordonner tout ça. Donc je suis pas, moi, un fan de l'idée que sans organisation, rien n'est possible. Ce qui est vrai, en revanche, et ça renvoie un peu à ce que je vous disais sur votre question précédente, c'est que en province, dans les villes moyennes ou même importantes, les gens se connaissent. Hein, et donc appeler à une réunion en commun la veille de la manif ou jeudi ou mercredi, et beaucoup de réunions se sont tenues comme ça un peu partout, par exemple à Montpellier, c'était hier soir, et ça s'est très bien passé. Il y avait à la fois l'intersyndical, des gens de la manif climat, et puis des Gilets jaunes et de leurs représentants, parce que tous ces gens-là sont sur la même localité. Paris, c'est pas le cas. Hein. On peut appeler, je sais qu'il y a des gens qui se disent Gilets jaunes parisiens, c'est très bien, hein, j'ai absolument rien contre. Enfin, ça ne représente pas un mouvement réel, ancré, comme on peut le retrouver dans les différentes villes hors Paris. Et donc ça rend les conditions d'organisation plus difficiles sur Paris.
Comment on sort de la crise? Comment on sort par le haut de ce climat tendu, climat social très compliqué aussi?
Oh ben, y a pas de miracle, hein. Le seul responsable, c'est le gouvernement. Hein, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débordement, ça ne veut pas dire que les Gilets jaunes sont tous parfaits. Dans tout mouvement social, il y a le meilleur et le pire, hein, comme le disait François Ruffin. Mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a la clé. Hein, bon, et la clé, on la connaît. Hein. Il y a des revendications qui sont absolument essentielles sur le pouvoir d'achat. On nous reparle de baisse d'impôts pour quelqu'un qui ne paye pas d'impôts. Je veux dire, ceux qui sont dans la rue, ils gagnent souvent le SMIC. Hein. Ils sont à 1145 euros aujourd'hui ou un tout petit peu plus. Ils sont souvent souvent non imposables. Hein, bon, donc baisser les impôts n'a pas grand sens pour eux. Bon, et on voit bien que les revendications qui cristallisent aujourd'hui le mouvement, c'est la hausse du SMIC, hein, et de façon significative. Hein, les gilets jaunes parlent de 150 ou 200 euros, ça dépend des lieux. Bon, mais ça donne une augmentation de 10-15%. Hein, c'est de cet ordre-là qui est demandé aujourd'hui. C'est la fin de la désindexation des retraites sur l'inflation, hein, puisque les retraités vont perdre 3,5% dans ces deux années, 2019-2020, y compris ceux qui sont à 900 euros. Hein, les seuls qui sont épargnés d'une certaine façon, c'est ceux qui ont le minimum vieillesse, mais pas toutes les toutes petites retraites. Or, on sait que les retraites, le point médian pour les retraites, c'est 1200 euros hein, dans ce pays. Et puis, l'ISF comme un symbole, évidemment, des injustices. Je pense que c'est les trois marqueurs forts, et on va attendre de voir ce que Macron va nous dire en début de semaine. Mais s'il n'y a rien qui bouge sur ces sujets-là, je suis assez inquiet pour la suite.
Vous l'avez dit, il y a la marche pour le climat demain aussi. Il y a certains endroits où il y a une convergence qui se fait avec les jaunes. Est-ce que c'est finalement pas l'écologie qui a été la grande oubliée de ces dernières semaines ?
Oui et non. Ce qui est clair, c'est que c'est un mouvement qui est parti sur le pouvoir d'achat, sur l'injustice et sur une impression de relégation et d'oubli hein, dans beaucoup d'endroits, parce que les services publics disparaissent hein, dans beaucoup de villes et dans beaucoup de quartiers. Hein. Ce n'est pas qu'une affaire de ce territoire ruraux. Hein. C'est aussi vrai dans les villes et les grandes villes. Bon, mais quand on discute avec les gilets jaunes, puis quand on voit ce qu'ils expriment, ils sont tout à fait conscients que la question climatique est importante. Hein. Bon, ce qu'ils disent, c'est que ça n'est pas à eux d'être les premières victimes de ça. Hein. Bon, et que il y a des tas d'autres choses qui pourraient être faites. Hein. Je donne deux exemple. Hein. Bon, tout le monde parle du kérosène et pour les avions et du fuel lourd pour les bateaux. Ce qui est vrai, c'est que le taux de soufre qu'émet aujourd'hui un tanker, enfin un paquebot alors comme un cargo, c'est l'équivalent à 1 million de voitures. Hein. Bon, donc on a des choses qui sont impensables. Hein. Bon, et puis on voit que le gouvernement en fait fait l'inverse de ce qu'il dit faire. Hein. Bon, sur une mesure assez importante qui est l'isolation thermique des bâtiments, dont on sait que c'est une des sources importantes d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis c'est aussi des conditions de vie très difficiles pour ceux qui sont en précarité énergétique, qui vivent dans des passoires thermiques. Le gouvernement a récupéré 800 millions sur 7 enveloppes, hein, puisque vous savez qu'il y a une aide qui est donnée par une réduction d'impôts quand on isole ces maisons. Ils ont récupéré 800 millions en faisant sortir fenêtres, portes et autres cloisons des dispositifs parce que ça leur coûtait cher. Donc en fait, ils payent moins pour 2019 sur les questions d'isolation thermique qu'en 2018 ou encore moins qu'en 2017. Donc on voit une hypocrisie absolue. Et les gilets jaunes le savent tous. Hein, donc on a vraiment là de quoi se mobiliser sur les deux questions.
Elle se situe où la juste réponse? On est en plein dans la COP24 en ce moment. Est-ce que c'est à ce niveau qu'on arrive à faire bouger les choses ou est-ce que c'est au niveau plus local? On a bien compris aussi que dans les différentes critiques et dans les différentes analyses qu'on a pu recevoir ces dernières semaines, il y a cette volonté de dénoncer aussi les aménagements du territoire où on éloigne les lieux de vie ou lieux de travail. Et donc, il y a tout ça aussi qui est en question. Est-ce que c'est le niveau local la bonne réponse aujourd'hui à apporter à la question
écologique? Ce qui est sûr, là, ça demanderait probablement plus de temps que cette interview, c'est que les mécanismes de discussion dans le cadre des Nations Unies, hein, qui est l'UNFCCC et dans lequel ont lieu les COP, donc la COP 24 aujourd'hui, les mécanismes ont changé par rapport à ce qu'était l'accord de Kyoto, hein, ça nous remonte aux années 90. Hein, bon, aujourd'hui, tout est basé sur des déclarations d'intention volontaire des États. Donc il n'y a pas une négociation pour dire il faut diminuer ci ou il faut diminuer ça. Les États arrivent en disant « moi je vais faire ça ». Bon, normalement, il y a un effet cliquet. Une fois qu'ils ont dit ça, ils n'ont pas le droit de revenir en arrière, en théorie, hein, parce qu'ils peuvent sortir de l'accord sur le climat, comme on vient de le voir avec les États-Unis d'Amérique, hein, par exemple. Bon, mais c'est tout. C'est-à-dire, si un État dit, prenez l'Arabie Saoudite, moi, de toute façon, je vais brûler du pétrole autant que j'en veux, ils signent, pas de problème. Il suffit qu'ils annoncent ce qu'ils vont faire. Bon, ce qui est sûr, en revanche, c'est que, un, c'est quand même des moments de polarisation, y compris médiatique, tout le monde en parle, et c'est très bien. C'est les moments aussi où le GIEC, donc les scientifiques qui travaillent sur le climat, publient leurs conclusions, hein, et celles qu'ils viennent de publier sont particulièrement alarmistes, hein, elles montrent qu'on va dans le mur et que le réchauffement climatique a des effets, pas pour dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais dès aujourd'hui. Bon, et on voit aussi que les États, même ceux qui se prétendent les meilleurs sur le climat, je pense à la France, ne respectent même pas ce qu'ils avaient dit. Hein. C'est-à-dire qu'on est sorti de la trajectoire annoncée en 2015 au moment de l'accord de Paris par la France. Il y a une réaugmentation des émissions de gaz à effet de serre en France, donc c'est vraiment dramatique. Et on voit que là, il y a en effet des choses locales à faire, hein, il y en a beaucoup, mais il y a aussi une volonté politique. Reprenons cet exemple des incitations à l'isolation thermique, hein, ou toute autre mesure de ce type, ou les aides qui pourraient être données au développement d'énergies renouvelables. Et on voit bien que, par exemple, des pays comme l'Allemagne, comme l'Autriche, comme le Danemark ont pu développer massivement les renouvelables grâce à des initiatives citoyennes. Mais là aussi, il pourrait y avoir des incitations fiscales. Donc il y a beaucoup de choses qui devraient être faites et qui ne sont malheureusement pas faites, en tout cas dans notre pays.
Merci beaucoup, Christophe Aguiton.
Merci à vous.
Et pour rester dans cette convergence des luttes évoquée par Christophe Aguiton, dans notre agenda, trois rendez-vous pour la justice sociale et écologique. Donc on commence mardi prochain, le 12 mars, avec une manifestation qui commence à 14h à République contre la hausse des frais d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers, qui n'est sans doute que le premier pas d'une hausse généralisée des frais d'inscription. Donc manifestation pour un enseignement public supérieur public gratuit et ouvert à tous.
Et on enchaîne avec le vendredi 15 mars à l'appel on en entend beaucoup parler la grève mondiale des jeunes pour le climat qui prend pas beaucoup en France mais qui pourrait prendre un peu plus. Et si on n'est pas jeune et si on est quand même pour le climat, on peut enchaîner le samedi 16 mars avec des marches un peu partout pour le climat. Alors un peu partout, c'est vague, donc si vous voulez plus de renseignements, il faut aller sur Démosphère pour savoir notamment sur la région parisienne où et quand cela a lieu.
Et ce mini-agenda clôt notre émission qui était animée ce soir par Alex et Pierre avec Ludo à la technique. Et nous nous quittons sur un morceau de Didier Skiban, une suite d'Andro du pays Vanté.
Enfin, Alex et Gaël surtout.
Merci.
Et Ludo à la technique.